bienvenue au cœur de la radioactivité.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce quatrième épisode de la chronique « On va se coucher moins niaiseux », édition de mars. Vous êtes en compagnie de moi-même, Gérard Chiasson, et de mon fidèle co-animateur, Étienne Jonf. Bonjour Étienne, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ah oui, très bien. Un petit peu enrhumé, comme tu as probablement pu le constater, mais on est en pleine saison des rhumes. J'y ai pas échappé cette fois-ci. Alors, Étienne, tu te rappelles, au dernier épisode, on avait discuté d'Antoine Laurent de Lavoisier, un savant aux multiples talents. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui?
Tu dois avoir entendu qu'on va bientôt assister à un phénomène très rare ici aux Îles-de-la-Madeleine.
Phénomène très rare, mon Dieu, au printemps. On n'a pas beaucoup de soleil. C'est pas ça?
Ça pourrait être une bonne réponse, mais la vraie bonne réponse, c'est que notre soleil pourrait nous jouer un tour le 8 avril prochain, puisque à 15h29 et 56 secondes, le ciel va s'assombrir jusqu'à l'obscurité complète à 16h39 et 15 secondes.
Ok, là, t'es en train de me dire toujours que le soleil va se coucher à 16h39, donc 5h moins 1. T'es pas en train de me dire que les journées commencent déjà à raccourcir?
Non, non. C'est, déjà, il va apparaître à 16h40 et 49 secondes. C'est ce qu'on appelle une éclipse.
Ok, une éclipse. Bon, ben, pas le choix. Il va falloir aller voir Charles de Metz pour y voir un peu plus clair. Avec lui, on peut faire la lumière sur n'importe quel phénomène obscur, nébuleux, contre-intuitif. Et puisqu'il n'est pas du genre à s'éclipser, lorsqu'on a besoin de ses connaissances, voici Charles de Metz, mesdames, messieurs!
Bonjour Charles, comment ça va?
Bonjour, ça va bien de l'autre côté?
Ça va plutôt bien, toi Gérard?
Ben, même verdict que tout à l'heure, je suis un petit peu enrhumé, Charles...
T'aurais pas attrapé un petit rhinovirus par hasard?
Dans le genre Stelcom, effectivement. Okay.
Parfait. Donc, comme vous l'avez assez bien dit, aujourd'hui, je vais parler des éclipses, qui est un phénomène astronomique assez intéressant et assez intéressant surtout à vivre, parce que je radote un peu, mais en effet, le 8 avril prochain, aux îles de la Madeleine et un peu partout au Québec, il y aura justement une éclipse solaire. Le soleil va s'éclipser dans le ciel et on aura un petit peu de nuit en plein jour.
Effectivement, on en entend de plus en plus parler de ce fameux phénomène-là. On sent que le jour approche de plus en plus. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous en parles davantage des éclipses. De casser qu'une éclipse.
Excellente question, je pense que c'est la bonne manière de commencer ça. Donc tout d'abord, la définition astronomique de ce qu'est une éclipse, en fait, c'est le phénomène qui se produit lorsqu'un corps céleste va passer dans l'ombre d'un autre. Donc un petit peu pour, on va dire, coudre un petit peu là-dessus, un corps céleste qui va être éclairé par un autre corps céleste, comme une étoile par exemple, va nécessairement créer en quelque sorte un cône d'ombre derrière lui, dans lequel il va faire noir, dans lequel l'étoile ne va pas éclairer. Et lorsqu'un autre corps céleste, comme une planète ou une lune par exemple, va passer justement dans ce cône d'ombre-là, de son point de vue, il y aura plus de lumière.
Exact.
Une autre manière de définir un peu ce qui est une éclipse, qui est une manière un peu moins astronomique, mais quand même facilement qu'on peut se représenter bien, c'est l'avoir comme étant l'obstruction d'un corps céleste lumineux, comme une étoile par exemple, par un autre corps céleste. Donc, qu'il y ait justement deux corps célestes qui sont là, qui font quelque chose, puis à un moment donné, paf, il y en a un qui passe vraiment entre les deux, ce qui va causer justement le fait que, du point de vue d'un des deux corps célestes, il y aura plus de lumière, l'étoile va disparaître dans le ciel.
D'accord.
Et dans le cas justement de l'éclipse solaire qu'on va vivre le 8 avril prochain, ce qui va arriver, c'est que la Lune va se placer directement entre la Terre et le Soleil, il va créer de l'ombre sur la Terre qui va justement faire une éclipse. Donc, il faut savoir qu'une éclipse solaire totale, surtout, c'est rare. Très beaucoup, pas mal, énormément rare. Même si en moyenne, une éclipse solaire 2 à 5 fois par année, il faut savoir que pour un endroit donné, donc pour un point de la planète donnée, il y aura seulement une éclipse tous les 375 ans.
Hey my God.
C'est quand même à des cycles assez longtemps, mais c'est une durée qui est quand même extrêmement variable. Notamment, il y a certaines régions des États-Unis qui ont vécu l'éclipse du 21 août 2017, puis qui vont revivre l'éclipse du 8 avril 2024 prochain, à seulement 7 ans d'intervalle, ce qui est quand même très différent de 375. Et notamment, la ville de Québec attend une éclipse depuis la fin du 14e siècle.
Oh.
Et la ville de Saint-John n'en a pas eu depuis le 10e siècle. Donc, on peut voir que le 375 ans est quand même très variable. Ça change beaucoup d'un endroit à l'autre.
Effectivement, c'est un phénomène qui est assez rare. Moi, évidemment, en 52 ans d'existence, j'ai pas eu beaucoup d'occasion d'assister à des éclipses. Je me rappelle, entre autres, d'avoir vu une éclipse lunaire. Mais là encore là, pour les voir, il faut être présent à un moment très précis, puis il faut que le ciel encore soit-il éclairé. Tu sais, je veux dire, si c'est une soirée nuageuse, tu verras absolument rien.
Ouais, ça, c'est un peu le problème avec le fait que ce soit en avril, c'est qu'il y a quand même des grandes chances, je pense 75 si je me trompe pas, que le soleil soit, que le ciel soit nuageux et qu'on voit pas vraiment bien.
Ah, tu niaises, ça se pourrait qu'on voit pas ça.
Ça se pourrait, mais je pense qu'on peut quand même continuer d'espérer.
Ça serait assez triste.
Ah, parce que là, bon, s'il faut attendre 375 ans.
Ouais, ça.
OK. Ouais. Je pense que c'est ma dernière chance.
Probablement. Et en parlant de dernière chance, ben, probablement que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui fait que les éclipses sont aussi rares? Pourquoi? Ben, il y en a pas tout le temps. Donc, comme vous le savez, la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne elle-même autour du Soleil. Ces orbites ont toute la forme de, à peu près d'un cercle. En fait, pour être précis, c'est des ellipses. Donc, de forme ovale et les orbites sont elliptiques. Et la Lune effectue une révolution, un tour autour de la Terre en environ 67 jours.
La Lune prend 27 jours pour faire le tour de la Terre, mais pourquoi il n'y a pas d'éclipse tous les 27 jours?
Ça, c'est une question très intéressante, parce que c'est justement dans cette petite question-là, en quelque sorte, que réside la rareté des éclipses. Donc, voyez-vous, l'orbite de la Lune a un angle par rapport à l'orbite de la Terre, un angle de environ 5,145 degrés, mais qui varie entre 5 et 5,28 degrés selon un cycle de 73 jours terrestres.
Okay.
Donc, cette image-là est un peu difficile à se représenter, mais il faut vraiment imaginer que l'orbite de la Lune est comme inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, et que parfois la Lune est comme trop haute, tu sais, que son cône d'ombre passe en haut de la Terre, puis parfois il est trop bas, en plus de parfois être comme trop à gauche, trop à droite.
C'est ça.
Ouais. Et en fait, également, comme vous pouvez sûrement vous le représenter, si l'orbite de la Lune est inclinée et que la Terre tourne autour du Soleil, il y a deux points de l'orbite de la Lune qui nécessairement rencontrent l'orbite de la Terre. T'es, on essayez de le visualiser, ouais. De l'imaginer dans votre tête. L'orbite de la Lune, l'orbite de la Terre, il y a nécessairement deux points qui partagent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la Terre va tourner autour du Soleil, ben, la position de ces points-là, qui sont appelés des nœuds lunaires, va changer au cours du temps. Et si vous réfléchissez un petit peu, deux fois par année, vous allez constater que les nœuds se trouve entre la Terre et le Soleil. Ces périodes-là de temps, ces moments-là où les nœuds sont vraiment entre la Terre et le Soleil, c'est appelé des saisons d'éclipse, parce que c'est des moments où théoriquement une éclipse pourrait avoir lieu. Et ces fameuses saisons-là, elles durent entre 31 et 37 jours. Et si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit, la révolution de la Lune prend 27 jours. Donc nécessairement, obligatoirement, la Lune va passer par ce nœud lunaire-là et va causer une éclipse.
En quelque part sur notre planète.
Oui, en quelque part. Encore là, dans un endroit assez ciblé, mais nécessairement, il y en aura une à chaque saison d'éclipse.
Excuse, Étienne, Charles, quand tu dis un endroit très ciblé, là, on parle d'un territoire qui s'étend sur combien?
Oui, en fait, c'est 100 kilomètres. En fait, mais c'est un 100 kilomètres qui va se déplacer au cours du temps. Puis, c'est ça, un 100 kilomètres qui se déplace en quelque sorte. Un disque de 100 km de rayon, de diamètre, excusez-moi, qui va vraiment se déplacer sur la surface de la Terre.
Parce que l'éclipse du 8 avril, je voyais dans les journaux, là, il y avait des reportages là-dessus, puis tire aux îles, on est vraiment en plein milieu de la trajectoire, justement, de l'ombre.
Ouais, on est quand même
vraiment en plein milieu dedans. Puis,
ce qui fait qu'on aurait une éclipse totale très longue, d'un petit peu plus que 3 minutes, alors que d'autres endroits auront seulement 1 minute, 2 minutes, beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a la chance de vivre justement cette expérience-là.
Est-ce que c'est l'endroit sur la Terre où la durée de l'éclipse totale va être la plus longue?
Non, absolument pas. Je pense que si je me trompe pas, au Mexique, ça va être un peu plus long à certains endroits. Puis au Québec, dans le coin de Sherbrooke, ça va être également un peu plus long, mais on est quand même dans le top, mettons.
OK.
Donc justement, en parlant des nœuds lunaires, ce que vous pouvez peut-être deviner, c'est que, ben, alors que la Terre tourne autour du Soleil, parfois il y a un nœud lunaire qui va être derrière entre le Soleil et la Terre. Mais à ce moment-là, me direz-vous, ben il y en a un qui va être derrière la Terre. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui arrive avec lui? Peut-être que, en tout cas, c'est ça. Mais ce qui arrive avec justement ce nœud lunaire-là, c'est que quand la Lune va passer derrière ce nœud lunaire-là, ce qui va arriver, c'est que du point de vue des observateurs terrestres, avec la nuit à ce moment-là, comme c'est comme derrière la Terre, ben la Lune va carrément s'éclipser et va disparaître, va être occultée par la Terre elle-même, et on aura l'impression qu'elle va disparaître du ciel.
Ça, ce phénomène-là, est-tu plus récurrent que l'éclipse solaire?
En fait, ça arrive à peu près aux mêmes fréquences, mais c'est juste un peu moins hot.
Ouais, puis c'est... Ça se passe pendant la nuit. Très souvent, on dort.
Oui, ça généralement, on dort pendant la nuit, donc on y est moins témoin.
Parce que je me rappelle, moi, pour avoir assisté à une éclipse lunaire, j'avais vraiment fait l'effort de me lever pendant la nuit. Puis j'avais été chanceux cette nuit-là. Le ciel était vraiment bien dégagé. Fait que j'ai vraiment vu le phénomène. Puis il dure beaucoup plus longtemps aussi que l'éclipse solaire. Mm-hmm.
J'ai une seconde question pour toi, Charles. Si la position des nœuds lunaires dépend seulement de la rotation de la Terre autour du Soleil, pourquoi les éclipses ne se déroulent pas toujours au même moment de l'année?
Ça, c'est une excellente question, parce que si on pense que l'évolution de la position des nœuds lunaires va simplement dépendre de la révolution de la Terre autour du Soleil, bon, on pourrait juste dire que les saisons d'éclipses vont se passer toujours au même moment de l'année, et que donc, il y aura seulement des éclipses, par exemple, en avril et en octobre. Mais alors que c'est pas le cas, il y a des éclipses à tous les moments de l'année.
Okay.
Qu'est-ce qui explique ça? Donc là, l'explication est un peu nébuleuse, est difficile à se représenter, mais je suis certain que vous allez réussir. L'orbite de la Lune, vous pouvez essayer de visualiser l'orbite de la Lune qui est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, mais l'orbite lui-même va tourner autour de la Terre par 19 degrés par an. Donc, à la fin de 18 années, l'orbite de la Lune carrément aura comme fait un tour autour de la Terre, ce qui fait que ça joue également sur l'évolution de la position des nœuds lunaires. C'est pas seulement la révolution de la Terre, il y a aussi le fait que l'orbite de la Lune carrément fait un tour qui va changer un petit peu la distance entre les saisons d'éclipse.
Ok.
Puis justement, en sachant cela, on peut un petit peu comme ajuster la distance entre deux saisons d'éclipse. C'est pas une demi-année, comme on pourrait peut-être le deviner, mais 173 jours. Et là, 173 jours, si vous m'avez bien écouté puis que vous avez bien retenu jusqu'à maintenant tout ce que j'ai dit, ça va vous sonner une petite cloche. Parce que c'est le même nombre de jours que ça prend pour la Lune pour faire un cycle entre 5 degrés et 5,28 degrés sur son orbite. C'est juste une coïncidence, mais c'est vraiment cool parce que c'est le même temps. Donc c'est quand même, je trouve quand même drôle. Et d'ailleurs, dans le monde des coïncidences, il y a carrément en fait une autre coïncidence qui est vraiment à l'origine même des éclipses solaires sur la Terre, c'est que la distance Terre-Soleil est environ 400 fois plus grande que la distance Terre-Lune, et que la taille du Soleil est environ 400 fois plus grande que la taille de la Lune.
Okay.
Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on est sur la Terre, la taille de la Lune est à peu près la même que la taille du Soleil, donc lorsqu'il y a une éclipse, vraiment, ils peuvent s'occulter parfaitement et vraiment comme faire une belle éclipse.
Donc là, si je comprends bien, dans notre grand univers, les systèmes planètes-étoiles, c'est pas tous les systèmes planètes-étoiles qui peuvent donner naissance à des éclipses.
Non, absolument.
Faut vraiment tout ça coïncide, ces mesures.
Ouais. Puis en fait, généralement, ça dépend de plein d'idées. Il y a plein d'exemples, mais par exemple, sur Mars, les lunes sont comme beaucoup plus petites que celles sur la Terre. Puis lorsqu'il y a une éclipse, ça va vraiment être beaucoup plus petit. Il y aura comme un point assez vraiment un point qui va comme passer coup sur le Soleil du point de vue de Mars. Puis ça, justement, ça s'appelle un transit.
Oh.
Quand il y a vraiment comme quelque chose de plus petit qui passe.
Okay.
Puis ça fait comme pas vraiment une vraie éclipse. D'ailleurs, en parlant de transit, on peut aussi imaginer que lorsque la Vénus, par exemple, passe entre la Terre et le Soleil, ça va occulter légèrement le soleil, mais comme Vénus est tellement loin, on la remarque même pas.
Puis il y a pas beaucoup de monde non plus pour les observer. Hein.
Non, en plein jour, c'est pas possible.
Ben, surtout sur Vénus.
Non, mais du point de vue de la Terre, je parle. Okay. Ben, quand Vénus passe entre la Terre et le Soleil, ça va faire un transit qu'on ne va pas observer.
C'est vrai.
Mais qui est quand même... C'est un transit, justement.
Effectivement. En passant, Charles... Tu nous parles d'éclipse solaire, celle qu'on va observer le 8 avril, là, on la qualifie d'éclipse totale. Est-ce qu'il existe d'autres types d'éclipses solaires?
Eh bien, sache que oui, il existe absolument plusieurs sortes d'éclipses solaires. Donc, tout d'abord, il y a les éclipses totales, comme justement tu disais qu'on va vivre. Ça, du point de vue d'un observateur qui est sur la Terre, c'est très facile à se représenter. Donc, la Lune va venir occulter entièrement le Soleil. Et justement, les gens qui ont la chance d'être au moment de l'éclipse totale vont voir un halo, le halo blanchâtre solaire autour du Soleil, qui normalement est comme voilé parce que le Soleil est tellement brillant que ces couches extérieures du Soleil sont pas assez brillantes, donc complètement... on va pas les voir, tout comme on voit pas les étoiles en plein jour. Mais là, alors que la Lune va réussir à passer devant le Soleil, ce magnifique halo, cette couronne blanche va comme passer autour de la Lune, autour du Soleil aussi, on peut le voir comme ça, et va venir illuminer le ciel. Donc, sur les photos, c'est très beau.
Okay.
Puis j'espère que je vais pouvoir l'apprécier à sa juste grandeur. Ensuite, il y a une autre sorte d'éclipse qui sont les éclipses partielles. Elles, du point de vue d'un observateur qui va être sur la Terre encore, c'est assez facile à se représenter. La Lune va venir occulter une fraction du Soleil et va en laisser passer comme une autre partie. C'est un peu moins impressionnant, mais c'est tout de même un spectacle assez beau. Moi, d'ailleurs, je me souviens, en 2017, il y a eu une grosse éclipse aux États-Unis, puis aux îles, je pense qu'on était dans une phase un peu partielle, puis on a pu voir... l'éclipse partielle, je me souviens de l'avoir admiré.
Est-ce que le ciel est suffisamment assombri pour pouvoir voir les étoiles comme si on était en pleine nuit?
Non, pas vraiment. Pas. Et il faut pas regarder le ciel parce que ça brûle les yeux, justement, comme on va en parler un peu plus tard. Le soleil.
Okay.
Et, oui, comme je le disais, les éclipses partielles se déroulent à certains moments. Donc, tout d'abord, au centre, en fait, autour de la zone de totalité où il y aura une éclipse totale, tout autour, il y aura une zone d'éclipse partielle. Donc tout d'abord, il y a comme la zone, en quelque sorte, la zone future d'éclipse totale où, du point de vue des habitants sur Terre, encore, on va voir comme la Lune, dès qu'il commence à occulter le Soleil petit à petit, qui a mané, pouf, va l'occulter entièrement et déclencher une éclipse totale. Mais avant et après, justement, l'éclipse totale, il y aura une éclipse partielle. Mais de plus, pour les gens autour de la zone de totalité, il y aura une éclipse partielle. Ça, c'est une image qui est parfois un peu plus difficile à se représenter parce que on imagine parfois que les rayons du Soleil sont comme parallèles, puis quand on voit le système Terre, Soleil, Lune, on voit les rayons parallèles, puis on s'imagine que la Lune devrait en occulter une partie, puis juste créer une belle zone d'ombre avec pas d'éclipse partielle. Exactement, pas d'éclipse partielle. Mais ce n'est pas le cas.
C'est pas coupé au couteau, là.
C'est ça. Puis parce que le Soleil, en quelque sorte, ses rayons sont pas parallèles. Les rayons partent de tous les points, dans toutes les directions, et les points en quelque sorte du Soleil qui sont plus à l'extérieur vont avoir quelques rayons qui vont quand même être orientés vers la Terre. Puis même si une partie du Soleil va être occultée par la Lune, il y a une partie des rayons qui va quand même réussir à aller sur Terre et causer ce qu'on appelle la zone de pénombre, qui va être un disque autour de la zone d'ombre dans lequel il y aura justement une éclipse partielle.
Okay.
Ensuite, il y a une autre sorte d'éclipse qui s'appelle les éclipses annulaires. Moi, je sais pas pourquoi je les aime bien, les éclipses annulaires. Comme je le disais tout à l'heure, les orbites de des planètes sont pas exactement circulaires. Elles sont elliptiques. Ils ont la forme comme d'un ovale, carrément. Ce qui fait que la Lune, la distance entre la Terre et la Lune va varier au cours du temps. Et lorsque la Lune va être à sa périgée, lorsqu'elle va être la plus proche de la Terre, elle va être à une distance d'environ 362 600 km. Et lorsque la Lune va être la plus éloignée de la Terre, elle est à son apogée, puis elle va être à une distance d'environ 405 000 km. Et lorsque la Lune va éclipser le Soleil, donc lorsqu'il y aura une éclipse et que on est proche de la période d'apogée, donc que la Lune est loin, ce qui va arriver dans le ciel, c'est qu'on va voir la Lune qui va comme cacher le centre du Soleil, mais il va garder justement une petite bande de Soleil tout autour
C'est sûr, comme le, comme la Lune est un peu plus loin de la Terre, ben, on la voit un petit peu moins grosse.
Exactement.
Elle peut pas couvrir toute la, l'étoile.
C'est tout à fait
le soleil,
ça.
Le soleil.
Donc, c'est un spectacle qui est quand même intéressant de voir cette bande de la, de soleil là autour de la Lune. Mais c'est quand même un peu moins fun, notamment parce qu'on veut, on peut pas voir justement le halo lunaire, solaire, pardon-moi. Et, ben, c'est ça.
Ah, ben, très intéressant. Donc, des éclipses solaires, on a donc des éclipses totales, partielles, annulaire entre autres.
Exactement. Donc, bah, c'est un petit peu ça pour les sortes d'éclipses.
D'accord.
Puis un petit peu peut-être pour clore cette histoire d'éclipse et d'astronomie, je voulais peut-être vous proposer une représentation un peu simplifiée, mais quand même à l'échelle du système Terre, Soleil, Lune, qui peut-être vous permettra de, d'imaginer, de voir un peu plus les éclipses du point de vue astronomique, à quoi ça ressemble. Donc, dans ce petit monde à l'échelle, en quelque sorte, on peut imaginer que la Terre est un, a la taille d'un globe terrestre.
Mm-hmm.
Et que la Lune a la taille d'une balle de balle molle.
Okay.
Qui est située à 9 mètres.
D'accord.
Donc, ça, ça permet un petit peu de prendre conscience mm-hmm. des proportions. Et, la Lune, le Soleil, on va juste imaginer que c'est une source de lumière incroyablement grande, éloignée à plusieurs kilomètres de cela. On n'a pas vraiment besoin des distances exactes pour l'imaginer. Et ce qui va se passer sur le globe terrestre, en quelque sorte, c'est que il y aura comme une zone qui va être entièrement cachée de lumière, qui va carrément avoir une ombre totale cachée par la balle de balle molle, dans laquelle on va rien voir, ben, s'il y avait quelqu'un sur le globe terrestre.
C'est ça.
Et ben, il y aura une zone autour de pénombre dans laquelle il y aura en quelque sorte une éclipse partielle. Et alors que la balle de balle molle va comme se déplacer, on peut facilement imaginer que la zone d'ombre va également se déplacer, ainsi que la zone de pénombre qui l'entoure. Et petite anecdote, là, je retourne avec les okay. vraies dimensions, mais la zone d'ombre, comme je l'avais dit, mesure un peu plus que 100 km de diamètre, et la vitesse de l'ombre, justement, qui se déplace, ça peut varier entre 2000 et 4000 km. Donc, c'est très rapide. Là, moi, je sais pas si je vais réussir, mais j'espère juste réussir à voir venir l'ombre, là. Il va arriver, là, j'espère que ça va vraiment être... En tout cas, je pense que ça doit quand
c'est
même
toutes des mesures astronomiques, dans ces affaires-là. C'est,
ouais, c'est
bien, ça qui est difficile terme, aussi ouais. à se représenter. C'est tellement des grandes données, des valeurs absolument...
Ouais, qu'on n'est pas habitué de traiter avec notre petit cerveau purement...
c'est pas notre échelle, c'est ça qui arrive.
Ouais, donc par contre, je vous invite à essayer de regarder peut-être l'ombre qui va arriver. Ça va sûrement être impressionnant si vous êtes dans un point en hauteur.
Dis-moi donc, Charles, je voyais dans les journaux la semaine dernière qu'il commençait à y avoir une pénurie de lunettes de protection. Il y avait des écoles qui cherchaient des lunettes, et puis là, ça commençait à être une rareté. Pourquoi est-ce qu'il faut porter des lunettes de protection pour observer ça?
Je vais vous l'expliquer avec grand plaisir, parce que je tiens à cœur à votre sécurité, donc je vais vous l'expliquer. Ben, comme vous le savez, regarder le soleil en temps normal, ben, de un, c'est dangereux parce que ça brûle votre rétine puis vos cellules photoréceptrices, mais c'est aussi douloureux. On regarde le soleil, puis on détourne les yeux, ça fait mal. Mais dans le cas d'une éclipse solaire, ben, comme il y a une partie du soleil qui est cachée, nos yeux, on n'aura pas l'impression que ça va causer de douleur, mais réellement, ça va briser nos cellules photoréceptrices autant, puis ça peut causer justement des problèmes, là, t'es comme problème de la vue, plusieurs. Puis ben là, faut pas que ça arrive, ça. Donc, portez vos lunettes, justement, de protection. Quittez juste pour que ce soit clair, des lunettes fumées, ça ne marche pas. Des lunettes fumées empilées les unes sur les autres, ça ne fonctionne pas non plus. Un casque de soudure ne fonctionnera pas, donc...
Ah non?
Non, ben... Faut avoir le casque extrêmement précis, mais
faut ne faites
pas ça. Ouais, ne faites pas ça dans tous les cas, là. La vraie chose, c'est faut des vraies lunettes certifiées. Okay. J'avoue, je connais pas par cœur le nom de la certification, mais elle existe.
Je sais que nous, à l'école, je pense qu'il est prévu une activité scolaire le 8 avril pour c'est assister à ça. Puis l'école est bien équipée en lunettes. En tout cas, il semblerait. on est sur la coche. On est prêt pour ça.
En effet, j'espère que ce sera sécuritaire et agréable.
Bon. Alors, on aurait-tu fait le tour de l'éclipse qui s'en vient?
Je pense que même si c'était peut-être un peu plus court que les dernières chroniques, je pense qu'on a quand même fait un tour intéressant, une bonne révolution autour du sujet.
Vu le nom.
Oui, moi incroyable, je sais. Improvisé en plus. Donc ben, là-dessus, je pense que je vais conclure avec juste un petit texte un peu intéressant que j'ai trouvé. Donc moi, les éclipses sont tout autant de potentielles communions avec le monde astronomiquement fabuleux qui nous entoure. Observer une éclipse, c'est non seulement voir à l'œuvre les lois fondamentales de notre univers, mais les vivre. S'agenouiller devant l'immensité de la beauté de notre monde afin d'en contempler l'infinie grandeur.
Ah, comme c'est bien dit. Donc, sur ces belles paroles, ben, je te remercie énormément, Charles, d'avoir fait la lumière sur un phénomène aussi inusité et rare.
Ça fait plaisir.
Alors, lundi le 8 avril, j'ose croire que tu vas assister à ce beau spectacle.
Absolument, avec grand plaisir et avec
émotion. Où vas-tu assister à ça? T'es-tu déjà décidé?
Moi, j'avoue, c'est prévu, je vais être au cégep, mais c'est ça.
Ah, bon, est-ce que le cégep organise une activité éducative?
C'est juste pour les membres du cégep et leur famille, mettons.
Okay.
Je vais avoir le droit d'y participer, là. J'espère que ça va être génial. Donc, ben sur ça, je vous souhaite également à tous une excellente éclipse et une belle vie.
Ben, merci beaucoup, Charles, pour ces informations. Alors, on se donne rendez-vous pour une autre chronique en avril.
Exactement.
Pour vous, chers auditeurs, ben, je vous rappelle que l'éclipse, je vous rappelle la date, le 8 avril, mais surtout les moments précis, parce que l'événement, il est très éphémère. L'éclipse partielle va débuter à 3h29 et 56 secondes. L'éclipse totale, elle, va débuter à 4h37 et 31 secondes. Donc, environ, grosso modo, une heure plus tard, ça va être l'éclipse totale. Ensuite, cette éclipse-là va se terminer à 4h40 et vraiment la fin de l'éclipse partielle, là, à 5h44 et 13 secondes. Donc, c'est vraiment un phénomène très éphémère. Faut pas rater ça. J'espère qu'on va avoir une belle température, un ciel très dégagé pour qu'on puisse assister à ça. Donc, ben merci beaucoup de votre écoute et je vous donne rendez-vous en avril pour une autre présentation de la chronique. On va se coucher moins niaiseux.
Bienvenue au cœur de la radioactivité.